France Inter.
Merci d'avoir choisi France Inter, 18h17.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir aux déserts médicaux. 8 millions de Français vivent dans des communes éloignées de tout médecin. 6 millions de personnes en France n'ont même plus de médecin traitant. Et je vous donne un dernier chiffre, 69 départements ont vu leur densité médicale reculer entre 2010 et 2024. Avec quelles conséquences sur notre santé? Cette baisse de soins est flagrante dans la Creuse, le Cher, la Haute-Marne ou la Dordogne. Nous irons aussi dans la Sarthe voir comment se débrouille la commune d'Abigné-Racan qui va bientôt voir partir son médecin traitant à la retraite. Reportage à suivre de Guy Vanctil. Et puis on donnera aussi la parole au monde médical qui voit d'un mauvais œil l'idée qui fait son chemin d'imposer aux médecins leur futur lieu d'installation selon les besoins des collectivités. C'est ce qu'envisage une proposition de loi. Nous recevrons l'un des co-auteurs de cette loi, de cette proposition de loi. Et puis, où sont donc passés les médecins? C'est la question ce soir. Y a-t-il une potion magique pour contenir les déserts médicaux? On va en parler jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage, nous sommes en ligne avec le maire sans étiquette de Camarès. Bonsoir Cyril Touzet.
Bonsoir monsieur.
Camarès, un millier d'habitants dans l'Aveyron. Votre commune, monsieur le maire, est devenue l'un des symboles des déserts médicaux. Alors, pour comprendre, il y a bien un médecin encore en place, mais il a l'âge de partir à la retraite. Et pour l'instant, toujours personne pour le remplacer, c'est bien ça?
C'est bien ça. Alors bon, pourtant, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver un médecin. Bon, déjà, je veux remercier le médecin traitant qui nous a promis, si vous voulez, qu'il ferait tout son possible pour quitter le cabinet uniquement après avoir trouvé un remplaçant. Et ça, déjà, c'est un peu rassurant. Ça veut dire que, bon, il joue un peu les prolongations, en fait, pour tout vous dire.
Et depuis combien de temps cherchez-vous un remplaçant ?
Ben, ça fait 2 ans, mais en fait, ça va au-delà. C'est tout le bassin de vie qui est démuni autour de Camarès, en fait. C'est pas uniquement le village de Camarès qui jusqu'à présent n'était pas en souffrance par rapport aux médecins puisqu'on en avait un, mais c'est plutôt que le bassin s'est vidé en médecins traitants parce que, bon, pour des départs à la retraite, qui pourtant ont retardé au maximum leur départ, puisqu'il y en a un qui est parti, il avait 74 ans. Donc, vous voyez qu'il a joué largement les prolongations, mais c'est vrai que ça, c'est un combat du quotidien. En fait, mais bon, vous savez, dans le milieu rural, on est habitué à souffrir et le combat est à tous les niveaux, donc est quotidien. Donc
combat du quotidien, dites-vous. Quelle démarche avez-vous entreprise pour le remplacer durablement, ce médecin?
Alors, les démarches ont été nombreuses et multiples. On essaie tout ce qu'on peut. Alors, on a même pris une entreprise de chasseurs de tête. Bon, alors ça n'a pas très bien fonctionné. C'était assez cher et ça, on n'a pas eu un résultat très probant. Pas du tout probant d'ailleurs.
C'est-à-dire, un cabinet, vous avez fait appel à un cabinet qui a cherché un médecin et aucun médecin n'est venu frapper à votre porte.
C'est ça.
Et vous avez dépensé ?
Et on a dépensé un peu plus de 27 000 euros.
Bon.
Voilà. Donc, ce qui est beaucoup hein, pour des petites communes, si vous voulez. Bon, c'est fait au niveau intercommunal, hein, cette dépense. Donc, c'est sur le bassin de vie, c'est ce que je vous disais. Après, bon, on a également, grâce à une commune voisine qui était dans le dispositif GIP, donc Groupement d'intérêt public, ce sont pour les médecins salariés, en fait. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tout le soutien que peut porter notre présidente de région au milieu rural, parce que c'est vrai que ici en Occitanie, on a une population qui s'accroît de 50 000 habitants par an à peu près, mais sauf qu'elle est très mal répartie, cette augmentation de population, et ça se centralise essentiellement sur les deux métropoles de Montpellier et de Toulouse et leur périphérie, en fait. Et pendant ce temps, le très rural se... Mais bon, on a un bon soutien de notre département et de la région, de Mme Delgan, en l'occurrence.
Et donc, est-ce que vous commencez, monsieur le maire, à vous faire à l'idée qu'il puisse ne plus y avoir de médecins dans votre bassin de commune?
Ah non, pas du tout, non. Non, parce qu'on ne baisse jamais les bras, vous savez, on est habitué à souffrir, donc on reste motivé et on restera les bras bien en l'air et on va trouver un médecin, je suis sûr qu'on trouvera une solution. Alors c'est vrai que ce qui nous met en avant, Camarès, particulièrement depuis quelque temps, c'est le remplacement que nous avons connu avec Anaïs et Brice,
Ah, il faut expliquer ça, parce qu'il y a des médecins itinérants qui sont venus en van pendant 15 jours, succéder un peu au médecin qui a pris des congés pendant 15 jours.
C'est ça, ça a permis de souffler à notre médecin. Et donc c'est par le biais de Jean-Dominique Alazard, qui est kinésithérapeute ici sur Camarès, et par un groupe Facebook en fait, de remplaçants de médecins. Sauf qu'Anaïs est médecin et Brice est kinésithérapeute, donc ils se déplaçaient dans le cadre d'un remplacement double, j'ai envie de dire.
Oui, c'est-à-dire ils faisaient un tour de France aussi.
Ils faisaient un tour de France. C'est ça.
Assez daté dans le temps. Il faut expliquer, monsieur le maire, à quel point une ville sans médecin, c'est devenu un repoussoir pour qui voudrait venir s'y installer et habiter là.
Ah mais c'est catastrophique en fait, je vais vous dire, parce qu'on habite dans des régions où on a une certaine sérénité, une certaine sécurité, on peut appeler ça comme on veut, on n'a pas tout le brouhaha de la ville, j'ai envie de dire, mais par contre la sécurité sanitaire c'est hyper important, d'autant plus si vous voulez qu'on est sur des régions où la population est relativement vieillissante et où on a un besoin existentiel en fait de ces médecins. Alors bon, je désespère pas, et je vous dis, on baisse jamais les bras. Donc
vous avez toujours bon moral. Est-ce que vous avez constaté dans votre commune, monsieur le maire, que des habitants finalement renonçaient à se soigner correctement à cause de l'éloignement et des délais d'attente trop longs pour avoir
Mais oui, c'est le cas.
Une consultation.
C'est tout à fait. Ouais, absolument. C'est le cas. Alors, on sait qu'il est très compliqué, même en ville, par contre. Hein, donc, c'est pas uniquement lié au monde rural. Hein, les déserts médicaux, il y a beaucoup de gens en ville qui n'ont toujours pas de médecin traitant, même dans des grandes villes. Mais si vous voulez, nous, en plus, on a la difficulté d'être quand même relativement éloigné, tout en étant assez proche. Quand même, on est à 1h30 de Montpellier, on est à peu près à peine 2h de Toulouse, même pas. Donc, on n'est pas non plus perdu. Au fin fond de la cambrouse, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, il y a des personnes qui ne font plus le pas, parce qu'au-delà des médecins généralistes, si vous voulez, ce sont les spécialistes aussi qui manquent dans plusieurs disciplines de la médecine.
Un dernier commentaire, monsieur le maire. Une hypothèse revient régulièrement dans le champ politique, une hypothèse repoussée à chaque fois. Une loi pour imposer aux médecins une obligation d'aller s'installer là où il y a des besoins. Comment recevez-vous cette solution?
C'est une solution qui, personnellement, ne m'enthousiasme pas plus que ça, pour une bonne et simple raison, c'est que faire avancer les gens en marche forcée, dans la durée, ça n'a jamais un très bon résultat.
Et on en parlera plus en détail tout à l'heure avec l'un des co-auteurs de cette loi. Merci beaucoup Cyril Touzet, maire sans étiquette de Camarès dans l'Aveyron.
Avec grand plaisir.
Merci. Bon courage dans vos recherches. Vous disiez, monsieur le maire, avoir fait appel à un cabinet de recrutement spécialisé pour trouver un nouveau médecin à votre bassin de commune. Eh bien, ça a été aussi le choix de la commune d'Aubigné-Racan. C'est dans la Sarthe, 2100 habitants, à une trentaine de kilomètres du Mans. Là aussi, le seul médecin traitant a prévu de partir à la retraite en juin. Et la mairie se démène donc pour lui trouver un remplaçant, mais rien n'y fait. Aubigné-Racan cherche toujours son prochain médecin. C'est un reportage de Guy Vanctil.
Voilà, à Aubigné-Racan, dans la Sarthe. Petit village, très tranquille.
C'est un joli petit bourg.
Tout le monde se connaît, c'est familial. Donc on est bien dans notre petite commune.
Ah, quand on est arrivé il y a 23 ans, c'était vraiment super. Il y avait beaucoup de choses.
Il y avait la poste, il y avait les banques.
Il y avait deux boulangeries, deux boucheries, deux coiffeurs. Il y avait un dentiste, deux docteurs. Il y avait trois restaurants.
Il y avait la gare.
Elle est murée. On avait deux banques. Il nous reste un distributeur.
Mais là,
l'essentiel, il n'est plus là.
Ben là, malheureusement, on a perdu notre épicerie récemment.
Boulangerie qui a fermé.
Et puis, ben voilà, progressivement, tout ferme.
Une commune quand même de 2200 habitants, une seule boulangerie, on n'a plus de petits libres-services.
Vous vous rendez compte?
C'est vrai qu'en 23 ans, on a tout vu partir, là. C'est triste, très triste.
Voilà. C'est triste, c'est sûr. Tout s'en va dans nos petites communes.
Eh oui.
Le médecin qui va bientôt aussi nous quitter.
On en arrive à cette situation.
Pour moi, le village, il se meurt.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Cabinet médical. Médecine générale, tous les jours, de 8h à 10h, et sur rendez-vous. Salle d'attente. C'est là.
Bonjour, docteur.
Je suis docteur Évrard, à Aubigné-Racan depuis 35 ans maintenant. Je suis un vieux médecin. Puis je prépare ma retraite, mon départ, dans les meilleures conditions possibles, pour la commune, pour les patients.
Et vous les connaissez par cœur, vous, en 35 ans, du coup, les habitants du village?
Tout à fait. Je connais certaines familles sur 5 générations.
Quand vous allez à la boulangerie, ou à la pharmacie, ou au marché, est-ce qu'on vous demande alors, docteur, c'est vrai que vous allez partir?
Ah bah, c'est la grande angoisse du moment, oui. C'est tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on va faire sans vous, docteur? Mais bon, le problème, c'est voilà, le désert médical.
Ici, on est en plein dedans.
En plein dedans, quoi. Voilà, dans les années 90, les communes environnantes, on était 8. Aujourd'hui, on en est 3, quoi.
Et bientôt 2.
Voilà. C'est tout le but de la démarche actuelle, quoi. C'est d'essayer de donner envie aux gens de venir, aux jeunes médecins, quoi.
Alors pour ça, ils garantissent des patients, ils proposent un logement et une voiture électrique.
Oui, c'est ça. Parce que, voilà, dire que tout disparaît, ok, mais on peut aussi construire quelque chose dans un désert. Moi, j'ai passé 35 ans ici, j'ai survécu.
Très bien, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Il n'y a pas de nouveaux médecins qui veulent venir dans notre commune.
C'est comme partout, hein. Les déserts médicaux, on n'y échappe pas.
Bientôt, on sera le désert d'Australie, même si ça continue. D'après ce que j'ai vu, ils ont embauché des chasseurs de têtes.
Ils essaient de trouver un autre médecin aux alentours. Mais bon, c'est pas toujours facile non plus. Il n'y en a pas à deux bouts de champ.
Maintenant, ils vont se tirer la bourre entre villages. Pour qui aura un médecin?
Oui, c'est ça, en fait. Qui va pouvoir attirer le médecin? Qui va offrir les meilleures conditions
Ils vont loger ce médecin. Ils vont lui fournir une voiture électrique pour les visites à domicile. C'est très bien, tout ça. Mais des médecins anciens, il n'y en aura plus jamais.
J'ai vu, il y a un village dans le Gard, Barjac, qui propose, lui, une maison avec piscine.
Oh, ouais, c'est
vrai. Vous pouvez faire autant aussi
Après, il faut voir avec le maire. Vous vous rencontrez le maire?
Je vais le voir, ouais. Bon, allez, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors, monsieur le maire, je suis.
Eh bien, Nicolas Mourier, depuis 2020, c'est mon premier mandat de maire. Alors Aubigné,
joli village, hein, ancien.
Jolie petite bourgade située entre Le Mans et Tours. Et notre gendarmerie.
Oui, il y a une gendarmerie en plus.
Alors non, il n'y a plus de gendarmerie depuis le 31 décembre de l'année dernière.
Ah ouais.
Ça fait partie aussi de...
Du recul des services publics.
Exactement. Alors,
la poste a fermé aussi.
Le bureau de poste a fermé, mais a été transformé sous forme d'agence postale.
Le guichet de la gare aussi.
Oui, la gare a été murée, ouais. Donc ça fait partie. Mais par contre, si vous continuez à faire l'inventaire de tout ce qui s'est arrêté depuis les 10 dernières années...
Vous allez être triste.
On va s'arrêter là, je vais aller me pendre dans un coin, on se reprend après. Non, trêve de plaisanterie, il faut rebondir. Et
voilà pourquoi vous mobilisez pour lutter contre la désertification médicale aussi.
Dans le cadre de la délibération, pour l'instant, c'est le cabinet médical, la salle d'attente et le cabinet du médecin qui sont proposés à la mise à disposition gracieuse. Demain, vous menez les médecins, je vous donne les clés.
Ça veut dire à quel point on est à cran aussi.
Exactement.
Et il y avait la voiture aussi, alors?
Alors oui, la voiture, donc mise à disposition d'un véhicule électrique s'il y a des visites à domicile. Bon, c'est un peu la carotte, parce que même le cabinet de recrutement pour attirer un médecin dit « bah ça, c'est la première fois que je vois ça en 25 ans, le coût de la voiture électrique ». Bon, on se fait pas trop d'illusions non plus. Qui ne tente rien à rien, et on organise, ça sera la troisième année cette année, un événement un peu particulier à Aubigné qui s'appelle les Colorés d'Aubigné. Et cette année, on a même convié un orchestre de jeunes étudiants médecins. Désolé pour le terme, mais c'est le nom du groupe qui s'appelle La Vaginale. Et qui...
Oui, ça fait bien un nom de salle de garde, ça.
Tout à fait. Vous comprenez bien qu'on n'hésitera pas à leur faire un accueil tout particulier pour leur montrer toute la bonne volonté qu'on a pour pouvoir accueillir des futurs professionnels de santé.
Et la fanfare qui joue Manu Chao en bande-son de ce reportage de Guy Vanctil dans la Sarthe, donc à Aubigné-Racan, toujours en quête de son prochain médecin. Je reçois le docteur Jean-Marcel Mourgue à présent. Bonsoir docteur.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, en charge particulièrement de la démographie médicale. On va voir avec vous les inégalités de territoire, là où les populations ont le plus de mal à trouver un médecin. D'ailleurs, quels sont les critères qui définissent précisément cette notion de désert médical?
Ah ben, excellente question, parce que justement, il n'y a toujours pas de définition scientifique de ce qu'est un désert médical. Et pourtant, c'est un lieu commun de dire il y a des déserts médicaux, c'est rentré dans les débats publics depuis 25 ans. Alors, si vous voulez bien, je prendrai simplement une citation de l'Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé, l'IRDES, qui date de 2018, qui, je crois, dit l'essentiel, bien que ça soit pas une définition. Le désert médical est une faiblesse de l'offre médicale disponible, couplée à l'enclavement des territoires et à l'importance des besoins de soins. Ça résume tout, c'est-à-dire des densités de professionnels de santé faibles, souvent dans les territoires qui sont hélas les plus enclavés en termes de desserte, et à l'importance des besoins de soins, parce qu'on sait hélas aussi que les territoires les plus en nécessité de soins sont les plus âgés et sont effectivement là où il y a davantage de besoins de soins, ne serait-ce qu'en affection de longue durée, en âge de la population, etc.
Voilà. Il y a moins de médecins en France qu'en 2010, avec une population française qui vieillit, avec donc au final des Français qui seraient moins bien soignés qu'auparavant.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. Dans un mois sortiront les chiffres de 2025. On est revenu au niveau de 2010. Et je parlais l'année dernière d'un frémissement. Ce frémissement se confirme, mais toutefois, il ne sera hélas pas perceptible pour la population en termes d'offres de soins.
Quand vous dites un frémissement, c'est dû à quoi ?
Ah ben, c'est dû au fait que le numerus clausus a augmenté significativement au début des années 2000 et qu'enfin, on engrange les résultats trop tardifs, hélas, de cette remontée du numerus clausus et que les médecins qui vont partir à la retraite, en revanche, seront au fil des prochaines années de moins en moins nombreux.
Un désert médical, c'est aussi de l'espérance de vie en moins.
Oui, l'Association des maires ruraux de France, je crois, avait publié une étude il y a un an et qui disait que l'espérance de vie dans ces territoires était de 2 ans inférieure. Toutefois, les déserts médicaux, maintenant, ce n'est plus un concept rural. On le voit en milieu urbain, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. On peut dire que les déserts médicaux, pour reprendre cette expression, se sont généralisés.
Vous l'avez évoqué, l'augmentation du nombre d'étudiants, ça ne suffit pas, même si on voit poindre un changement de tendance. Que faut-il d'autre pour contenir ces déserts médicaux, selon vous ?
Alors, il faut agir dans la boîte à outils. Il n'y a pas une solution magique. S'il y en avait une seule, ça se saurait. D'abord, recruter de façon différenciée les étudiants en médecine. Il y a une revue de littérature internationale qui est souvent citée sur ce qui a pu marcher à l'étranger, qui a été publiée en décembre 2021. Les territoires défavorisés ont insuffisamment d'étudiants en médecine. Or, on sait que les futurs médecins reviendront plus volontiers dans les territoires dont ils sont originaires. Et ça commence avec les fameux lycées options santé. Ensuite, pendant le cursus initial des études, il faut favoriser des stages par le nombre et la durée. Deuxième et troisième cycle, le troisième cycle des études médicales, c'est l'internat, toute spécialité confondue. Or, on sait que les territoires défavorisés ne sont pas suffisamment lieux de stage, quelles que soient les spécialités. Il y a 44 spécialités dans la médecine générale, mais il y en a bien d'autres. Il faut vraiment faire en sorte que, sous couvert bien évidemment de qualité de ces stages, il y ait une large irrigation de tous les territoires dans ces lieux de stage, en lieu de stage. Ça, c'est aussi autre chose. Il y a des expérimentations à ce niveau-là qui ont déjà marché. Après, il faut libérer du temps médical. Nous sommes très favorables à l'exercice multiprofessionnel.
Libérer du temps médical, pardon, mais ça ne me parle pas beaucoup.
Alors, libérer du temps médical, c'est favoriser un parcours de soins coordonné par le médecin. Parce que actuellement, nous avons plus de 13 millions de patients français qui sont en affection de longue durée. La population est de plus en plus âgée, nous le savons tous. Et il y a vraiment besoin de coordination entre les différents acteurs et celle-ci est insuffisamment mise en place.
Merci docteur. Je voudrais vous faire réagir sur cette proposition de loi qui envisage d'imposer aux médecins d'aller s'installer là où il y a de gros besoins dans les collectivités. Comment est-ce que vous appréhendez, vous, cette solution ?
Bah, c'est une fausse bonne idée parce que j'ai regardé la proposition de loi dans le détail. D'abord, on ne sait pas à qui elle s'adresse, si c'est les médecins généralistes, les médecins spécialistes hors. Les médecins spécialistes hors la médecine générale sont plus frappés encore par les inégalités territoriales.
Ça s'adresse donc, aux deux, aux jeunes médecins comme aux plus anciens.
Oui, mais dans l'exposé des motifs, c'est moins clair. Deuxièmement, est-ce que ça concerne aussi les médecins d'activité hospitalière salariés, qui est devenu maintenant le premier exercice numériquement, quantitativement, ce n'est plus l'exercice libéral, donc on ne voit pas trop. Les déserts médicaux concernent tout autant les hôpitaux que la médecine de ville. Là non plus, ça n'est pas très clair. Et puis enfin, tout le territoire national, peu ou prou, maintenant est en désert médical. Madame Firmin Baudot, qui était ministre déléguée de la Santé il y a un an, disait 87% du territoire national est un désert médical. Donc on ne voit plus trop maintenant à quel territoire il faudrait barrer la route en disant non, là, il y a trop de médecins. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui, à mon avis, dans le détail, sont quand même assez battues en brèche.
Eh bien, on va poursuivre ce débat avec nos prochains invités. Merci beaucoup d'avoir témoigné en direct sur France Inter, docteur Jean-Marcel Mourgue, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, en charge particulièrement de la démographie médicale. Merci donc de ce témoignage sur France Inter. Une semaine en France, ça continue à suivre le volet politique des déserts médicaux. Rendez-vous avec notre prochain invité. En attendant, voici Jeanne Chéral sur Inter.
Jean, j'en ai marre de rêver de vous, Jean. Connu des plus forts que vous, Jean. N'est connu des plus beaux que vous, Jean. N'est connu, mais il n'était pas vous. Jean, j'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. Jean, tant d'ici votre rire d'argent qui scintille.
Quand je... Jeanne ne peut plus se passer de Jean. Ça donne cette chanson de Jeanne Chéral intitulée Jean, tout simplement. Et merci à Djoubaka pour la programmation musicale. Vous écoutez Une semaine en France. À la technique ce soir, Rémi Sistiaga, Maxime Goudard et Julien Thévenot.
France Inter, le 18-20.
Comment finir, si l'on peut, avec ces déserts médicaux et quelles conséquences? On continue d'en parler avec notre dernier invité, le député de la Mayenne, Yannick Favennec. Bonsoir.
Bonsoir.
Député Liotte, hein, vous êtes l'un des auteurs, notamment avec votre collègue socialiste Guillaume Garot, de la proposition de loi transpartisane sur les déserts médicaux. Avant d'entendre ce que vous préconisez, votre constat d'abord. Vous dites que ces déserts médicaux sont un scandale d'État.
Et oui.
Quelles erreurs l'État a-t-il laissé s'installer?
Je rappelle que l'accès aux soins, c'est du domaine régalien de l'État. C'est la responsabilité de l'État. Et ça fait 25 ans que l'on constate que l'on manque de médecins. 87% du territoire national, vous le disiez tout à l'heure, est un désert médical. Et pendant ce temps-là, on a regardé ailleurs. Et moi, je vois dans ma circonscription, en Mayenne, des gens, tous les jours, qui viennent me voir parce qu'ils ne trouvent pas de médecins. Parce qu'ils renoncent à se soigner, parce qu'ils ne trouvent pas de médecins. Parce qu'ils sont dans le désespoir, tout simplement.
Et c'est aussi des bassins de communes qui sont obligés de se transformer, voire de disparaître.
Mais c'est l'attractivité de nos territoires qui est en jeu. Et c'est la raison pour laquelle nous menons ce combat avec Guillaume Garot, avec 90 députés de toutes tendances qui forment le groupe transpartisan qui a travaillé sur cette proposition de loi. Proposition de loi qui est cosignée aujourd'hui par 257 députés de toutes tendances représentés dans l'hémicycle. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin de la majorité absolue. Et notre objectif maintenant, c'est que cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour des travaux de notre Assemblée, qu'elle puisse être discutée, amendée et surtout votée.
Et ça, il y a un calendrier pour ça?
On se bat pour ça, on a bon espoir de pouvoir faire en sorte que cette proposition de loi soit inscrite au printemps à l'ordre du jour de nos travaux. Nous avons un rendez-vous au cabinet du Premier ministre dans quelques jours. Nous avançons.
Et comme c'est une loi transpartisane, ça ne peut pas faire l'objet d'une niche parlementaire?
Ça peut faire l'objet surtout de la semaine transpartisane qui a été mise en place par la présidente de l'Assemblée nationale, qui permet, une fois par mois, de discuter de propositions de loi qui émanent de plusieurs groupes parlementaires représentés à l'Assemblée.
Alors parlons-en de cette proposition de loi que vous défendez. Elle veut tout simplement réguler l'installation des médecins. Ça veut bien dire que vous voulez leur imposer leur lieu d'affectation, d'installation?
La régulation, ce n'est pas une punition pour les médecins, c'est une solution supplémentaire pour les patients. La régulation, c'est quoi? On part d'un constat, 87% du territoire national est un désert médical. 13% représentent, en tous les cas, sont des territoires où il y a beaucoup de médecins. On voit à peu près où ça se situe sur la carte. C'est le sud-est, c'est la côte atlantique. Nous, on dit tout simplement aux médecins, installez-vous où vous voulez sur les 87% du territoire national désert médical. Et sur les 13% où il y a beaucoup trop de médecins, eh bien, on dit tout simplement, si vous voulez vous installer sur ces 13%, vous pourrez le faire qu'à la seule condition qu'un de vos confrères qui exerce la même spécialité que vous parte à la retraite ou parte tout simplement sur un autre territoire.
Vous avez bien conscience que ça limite aussi considérablement le choix de chaque médecin de s'installer là où il veut.
Mais attendez, 87% de notre territoire, c'est quand même les trois quarts, plus des trois quarts du territoire national où ils peuvent s'installer là où ils le souhaitent. Donc ce n'est pas une contrainte, c'est une régulation. On essaie de faire en sorte que les médecins soient là où nous avons besoin d'eux.
Mais un jeune médecin qui s'installe, on verra qui ça concerne précisément, parce que le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins avait quelques questions, je vais vous les reposer. Un jeune médecin qui s'installe, aujourd'hui il a en moyenne une trentaine d'années, parfois marié, avec un enfant, encore faut-il envisager un emploi pour son épouse, une école pour les enfants? Est-ce que votre proposition de loi a envisagé ça?
Mais nous, ce qu'on veut, c'est mieux répartir, mieux former et mieux accompagner les soignants. Donc évidemment, on sait bien qu'aujourd'hui, un médecin ne fait plus 70 heures par semaine comme il le faisait dans le passé. Aujourd'hui, un médecin, il essaie de faire 35 heures parce qu'il a besoin d'une qualité de vie, parce que vous l'avez dit, il a une famille, il veut pouvoir aussi avoir des loisirs.
Je crois
donc
qu'il y a des médecins qui ne sont pas loin de 60 heures par semaine.
Quand il y avait un médecin dans le passé qui faisait 70 heures, aujourd'hui, il en faut deux, voire trois. La profession, c'est aussi féminisée. Ce qui a aussi des conséquences, évidemment, pour l'installation.
imposer aux médecins leur zone géographique d'installation, ça n'a jamais été expérimenté. Est-ce que vous comprenez que cela puisse irriter ?
Mais attendez, c'est expérimenté pour les pharmaciens, pour les kinés, pour les infirmiers.
Pas chez les médecins.
Les chirurgiens dentistes viennent de signer une convention l'été dernier pour aller aussi vers la régulation. Et la régulation, ça fonctionne dans d'autres pays, au Québec, en Allemagne, en Suède, en Belgique. Il n'y a qu'en France où on ne l'a pas expérimenté. Nous, ce que nous souhaitons, c'est au moins, à titre expérimental, qu'on le fasse, qu'on puisse essayer de le mettre en place. Et cette solution, c'est un complément à tout ce qui est fait. Tout à l'heure, on entendait des maires s'exprimer. Moi, je salue l'engagement des élus locaux pour essayer justement de pallier les défections de l'État. Les maisons pluridisciplinaires de santé, les centres de santé, le salariat des médecins, la voiture électrique qu'on met à la disposition des médecins, enfin pardon...
Pour aller faire la visite.
Mais tout ça, c'est l'argent du contribuable. Donc moi, je crois que la régulation, c'est une solution supplémentaire, complémentaire à ce qui est fait par les élus locaux et qui n'a encore jamais été expérimenté en France alors que ça marche ailleurs.
Vous parliez des élus, des collectivités locales. Ils sont devenus des marchands. Il faut marchander aujourd'hui pour attirer le médecin.
Moi, j'ai, dans ma circonscription, un maire qui m'expliquait qu'il était en train de marchander le prix du loyer de la maison pluridisciplinaire de sa commune, parce que les médecins, justement, jouaient là-dessus en disant « si vous ne baissez pas le prix du loyer, nous partirons ailleurs ». C'est scandaleux d'entendre quelque chose comme ça.
Mais dites-moi tout de même ce que vous répondez aux médecins qui rétorquent que votre proposition de loi remet en cause le principe même de la médecine libérale.
Mais pas du tout. Une fois encore, je dis, c'est la régulation, on demande que les médecins s'installent là où nous avons besoin d'eux. Et ce n'est pas une attaque contre les médecins. Nous, on n'a rien, évidemment, contre les médecins. Au contraire, on a besoin d'eux. On veut les aider. Et on veut aussi, surtout, on veut répondre au désespoir de nos concitoyens qui ne peuvent pas se soigner.
Dans cette installation régulée de médecins dans les communes, quel rôle jouerait l'Agence régionale de santé ?
Vous savez, moi, j'ai toujours pensé que l'Agence régionale de santé, comme d'ailleurs beaucoup de mes collègues, il fallait la supprimer et la remplacer par l'Agence départementale de santé.
Qu'on prenne des
décisions, exactement, qu'on prenne des décisions au plus près de nos concitoyens, au plus près de nos collectivités. Donc moi, je suis pour la suppression de l'ARS et son remplacement par l'ADS, l'Agence départementale de santé, au plus près des décisions, au plus près de nos concitoyens.
Et dans cette Agence départementale de santé, quel serait son rôle pour l'attribution, le choix des médecins ? C'est elle qui choisirait ?
Non, c'est pas choisir.
Il y aurait acte de candidature, donc des choix à faire.
Elle pourrait, justement parce qu'elle est au plus près des problèmes de nos concitoyens et des collectivités, elle serait beaucoup mieux à même de pouvoir répondre effectivement par cette proximité.
Et puisque l'on manque de médecins en France, est-ce que vous préconisez aussi d'aller les chercher hors de l'Union européenne ?
Ben, on est en train justement, nous on réfléchit au travers de cette proposition de loi à faire en sorte que ce qu'on appelle les PADU puissent mieux s'intégrer plus facilement, avec moins de contraintes que c'est le cas aujourd'hui.
Aujourd'hui, quel est le pourcentage, on le connaît en France, de médecins qui travaillent en France, donc, mais qui viennent hors de l'Union européenne ?
Il y en a de plus en plus, moi je le vois dans mon territoire, où effectivement on fait appel à ces médecins venus de l'étranger.
Et ils viennent d'où en général ? De Syrie, d'Algérie,
de pays extérieurs, effectivement, à l'Union européenne.
À l'université aussi, il faut garantir plus d'étudiants en première année de médecine.
Oui.
Comment on s'y prend ?
Il faut déjà être en capacité de les accueillir. C'est bien de dire on va former plus de médecins, mais faut-il encore que les facultés soient en condition de pouvoir accueillir ces étudiants supplémentaires, et puis qu'on ne fasse pas de cette première année l'année couperet. On tue des vocations à 0,01 point en fin de première année. On tue des vocations, des gens qui pourraient certainement être de très bons médecins, et il y a une telle sélection qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui, malheureusement, sont obligés de renoncer.
Ça veut dire que vous proposez plus de monde en première année ou de rendre cette première année moins difficile ?
Un peu les deux.
Un peu les deux. Que signifie, dans votre proposition de loi, l'idée de consolider les centres de santé, c'est-à-dire la médecine salariée, la médecine de ville, notamment ?
Parce que c'est une solution qui a été mise en place par certaines collectivités, je le vois moi dans ma circonscription, et c'est de mieux accompagner les collectivités locales qui vont dans cette direction, que effectivement l'État puisse être à leur côté.
La question du vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins qui me demandait, mais je vous retransmets la question, est-ce que cette proposition de loi concerne aussi les médecins salariés, les médecins de ville ?
Oui, bien sûr. Elle concerne l'ensemble des médecins. Elle concerne les généralistes comme les spécialistes. On a vraiment un problème. Regardez les conséquences que ça a aujourd'hui dans le fonctionnement de nos hôpitaux. Moi, je le vois dans mon département de la Mayenne, avec des urgences qui sont totalement débordées. À la base, le problème vient du manque de médecins.
Merci beaucoup d'être venu le dire ce soir sur France Inter, député Yannick Favennec, député Liotte de la Mayenne, à l'origine donc avec quelques autres députés de cette proposition de loi transpartisane sur les déserts médicaux. Et nous suivrons ce que donneront les débats au Parlement. Voici The Temptations sur France Inter. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess if you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. C'était The Temptations, la suite d'une semaine en France avec Juliette Gou à la réalisation, Frédéric Barrère, rédacteur en chef, et Nathalie Poitevin à la préparation. C'est l'heure du multiplex.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
Le multiplex d'ici et d'ailleurs. L'actualité en région avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Saint-Étienne-Loire, ICI Sud-Lorraine et ICI Roussillon. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
À Perpignan d'abord, Stéphanie Mora, les écoles de langue catalane, la Bressole, ne veulent pas disparaître.
La Bressole signifie le berceau en catalan et dans le département, cette association dirige 7 écoles et 2 collèges, des établissements laïcs en contrat avec l'éducation nationale où les cours sont dispensés en langue catalane à un gros millier d'élèves. Seulement voilà, il manque 400 000 euros dans les caisses et si la direction ne les trouve pas d'ici le mois de mai, elle devra fermer des classes. En janvier, les dirigeants ont donc sollicité les collectivités pour une rallonge de subventions, mais pas la mairie RN de Perpignan avec qui les relations sont tendues. Louis Alliot s'oppose depuis le début de son mandat à un projet de lycée en catalan sur sa commune. En Catalogne Sud, on surveille le dossier de très près. Pere Aragonès, qui est l'ancien président de la région, la Generalitat, est même venu à Perpignan au début du mois pour soutenir la Bressolle. Selon lui, les problèmes financiers de l'établissement coïncident avec l'arrivée du RN à la mairie. Et il ajoute, l'extrême droite attaque de toutes parts la langue.
Mais à quoi fait-il référence ?
Eh bien, au fait que ces dernières années, le Parti populaire et Vox, la droite et l'extrême droite espagnole, tentent de bannir le catalan dans les régions catalanophones. L'an dernier, au Baléares, par exemple, la coalition de droite au pouvoir a proposé un plan pour imposer l'enseignement en castillan dans les écoles, en lieu et place du catalan, mais la population l'a rejeté. L'autre menace, eh bien, c'est la langue. Et sur la langue, elle est culturelle. Les jeunes sud-catalans la parlent de moins en moins et un peu réingardisée, cette langue, par l'influence grandissante de l'immigration sud-américaine, avec sa musique et ses tubes reggaeton. Bref, l'inquiétude est telle à Barcelone que la télévision publique catalane TV3 diffusera début mars en prime time un documentaire sur une langue menacée.
De Perpignan, nous partons dans la Loire, à Saint-Martin-la-Plaine, Véronique Narboux. Deux lions qui vivaient dans l'espace zoologique de la commune vont être renvoyés en Afrique du Sud.
Exactement, c'est un duo, hein, un frère, une sœur, Yoda Isis. Ils vont donc partir lundi prochain en avion. Aujourd'hui, ils ont 5 ans, donc vous imaginez les beaux bestiaux. Mais quand ils sont arrivés à Saint-Martin-la-Plaine, c'était des bébés, des lionceaux tout juste sauvés par la fondation 30 millions d'amis. Ils venaient d'être abandonnés à Aix-en-Provence par un rappeur qui avait cru bon de les utiliser dans ses clips et sur ses réseaux sociaux. Donc 30 millions d'amis a confié les lionceaux à l'association Tonga Terre d'Accueil, qui est basée à Saint-Martin-la-Plaine depuis 17 ans déjà. Tonga s'est donné pour mission de recueillir les animaux sauvages, soit confiés par des cirques, soit remis par les autorités après un démantèlement de trafic. Ces animaux sauvages, vous l'imaginez, une fois qu'ils ont eu un contact prolongé avec l'humain, eh bien ils ne peuvent pas retourner à leur vie sauvage, sauf que parfois, on arrive quand même à s'en rapprocher, et c'est tout le but du Roar Project. Roar Project, c'est un partenariat entre Tonga Terre d'Accueil et le Sunwild Sanctuary en Afrique du Sud, sanctuaire qui va donc accueillir Isis et Yoda. Certes, nos lions seront nourris par l'homme puisqu'ils n'ont pas appris à trouver leur nourriture eux-mêmes, mais ils vont quand même pouvoir évoluer dans une réserve de 3000 hectares. C'est la quatrième fois seulement que Tonga Terre d'Accueil est en mesure de renvoyer des fauves en Afrique, parce que tout ça coûte évidemment beaucoup d'argent, et je ne vous surprendrai pas en précisant que l'association a toujours grand besoin de dons.
Merci beaucoup Véronique Narboux. De Perpignan, on trace une longue diagonale jusqu'à Nancy. Clément L'Huillier, vous nous présentez un chef étoilé qui travaille aussi pour les Restos du Cœur.
Charles Coulombeau, je vous fais les présentations. 32 ans, c'est un chef cuisinier qui monte. Hein. Il est aux manettes de la maison dans le parc. On est juste à côté de la place Stanislas. Il a décroché sa première étoile l'année dernière, 8 mois seulement après son arrivée dans le restaurant. Depuis quelques mois, il est aussi aux commandes du Yozora. C'est le restaurant du centre Pompidou à Metz. Dans un mois tout juste, à Metz toujours, c'est lui qui préparera le buffet de la cérémonie des étoiles Michelin. Et à partir de ce lundi, on le verra aussi à la télé, au fourneau de l'émission C'est à vous sur France 5.
Et il faut redire, Clément, à quel point Charles Coulombeau est aussi un chef engagé.
Oui, parce que depuis 2020, il fabrique des soupes qu'il offre aux bénéficiaires des Restos du Cœur. Il les prépare avec tout ce qu'il reste de comestible dans les légumes qu'il sert dans ses restaurants, les épluchures, les morceaux qui ne sont pas utilisés, les feuilles. Ces soupes, elles sont ensuite conditionnées dans des bouteilles d'eau que boivent les clients. Elles sont lavées et stérilisées et donc réutilisées. Il y a donc à la fois une démarche écologique et solidaire. Il a embarqué toute sa brigade dans cette démarche sans s'en vanter, sans faire de pub. L'an passé, ils ont préparé plus de 3 tonnes de soupes à Nancy et à Metz. C'est l'équivalent de 5000 repas par an, été comme hiver. Alors, on pourrait parler de soupe étoilée, mais lui ne veut pas. Il préfère le terme de soupe consciente. Comme quoi, on peut viser les étoiles, mais tout de même garder les pieds sur terre.
Eh bien, merci à tous les trois. Le multiplex d'ici et d'ailleurs avec nos confrères du réseau ici. Un grand merci.